Bonjour Daniel Cohen, merci de nous recevoir pour ces journées de l'économie. Je pense qu'on va s'intéresser immédiatement aux analyses de votre dernier livre, La prospérité du vice. Il m'a semblé que dans le livre, on avait une espèce de division de l'histoire avec un monde qui était partagé en deux périodes. Une première, un monde dit malthusien, où vous dites les inégalités sont une bonne chose, et vous ajoutez c'est véritablement le règne de la prospérité du vice. Et puis une deuxième période, celle de la croissance perpétuelle, régie par le fonctionnement des marchés. Est-ce que, grosso modo, on a ce basculement du monde qui permettrait de comprendre depuis le début de l'humanité comment fonctionne l'économie?
Oui, enfin, en allant très vite, je pense qu'on peut dire oui. C'est-à-dire que pour un économiste qui veut regarder de très très loin l'histoire humaine, on peut dire qu'il y a deux ruptures, et deux seulement. La révolution néolithique, qui fait passer l'homme de l'âge des chasseurs-cueilleurs à l'âge des sociétés rurales. Et puis ça dure à peu près 10 000 ans. Et puis il y a une deuxième rupture qui se produit, qui est la rupture de la révolution industrielle qui déclenche le monde nouveau de la croissance perpétuelle. Et si on veut rajouter une couche dans la caricature, on dit, eh bien, jusqu'à la révolution industrielle du milieu du XVIIIe siècle, l'homme est soumis à une loi économique simple, la loi de Malthus, qui tient que dès qu'une société tend à s'enrichir, enfin une société, une région, une civilisation tend à s'enrichir, elle déclenche une explosion démographique qui, au bout d'un certain temps, fait que le nombre de gens devient si important que le revenu par habitant est ramené au départ. Ce qui fait que jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, si on veut juger qu'une civilisation est prospère ou pas, ça n'est pas en revenu par habitant qu'on va en juger, mais c'est en densité de population. Et à partir du milieu du XVIIIe siècle, on passe dans un nouveau monde qui, évidemment, recèle ses propres lois et ses propres mystères, on va en parler tout à l'heure, mais qui fait que c'est bien le revenu par habitant qui augmente. Alors, dans le livre, je reprends cette typologie, qui me paraît très juste et très pertinente, j'y ajoute un bémol qui me paraît très important. C'est que dans les deux cas, on peut dire que cette rupture, elle a été précédée par une révolution intellectuelle, une révolution mentale. C'est-à-dire que la révolution monolithique, on peut sans doute se dire qu'elle a été précédée par la découverte des divinités. On sait que les humains ont commencé à croire en Dieu, en des divinités, ont commencé à enterrer leurs morts bien longtemps avant la révolution néolithique. Et certains préhistoriens, Jacques Covin, que je cite, va jusqu'à prétendre que c'est bien cette révolution mentale qui a rendu possible la révolution néolithique. Et puis de même pour la révolution industrielle, qu'on connaît mieux, on sait que ça a été précédé par une immense transformation des cadres mentaux de l'Occident. Il y a eu au moins et à minima la révolution scientifique du XVIIe siècle et beaucoup d'autres choses qui se jouent entre le XIe et le XVIIe siècle. Donc voilà, la seule mise en garde que je mets à l'égard, disons, de la lecture un peu mécanique, mais que j'assume, c'est ces grandes révolutions, elles ne sont pas venues toutes seules, elles ont été précédées par une révolution, on va dire, d'ordre intellectuel.
Alors, dans cette croissance perpétuelle qui s'engage, on a l'impression que les États-nations jouent un rôle qui est important. Vous semblez nous dire que dans la croissance, en tout cas pour les économies européennes, la rivalité entre les nations a été importante et qu'à contrario, du côté de la Chine qui elle se ferme sur elle-même, il manque cet aiguillon pour qu'elle se développe sur la période 15e, 16e, 17e.
Alors, il y a effectivement un événement bon, qui est souvent utilisé, mais que je trouve vraiment très intéressant. C'est l'empereur de Chine qui, un beau jour, décide, au début du XVIe siècle, que les voyages outre-mer sont coûteux, inutiles, qui sont un élément de discorde en interne, et qui décide de brûler toute la flotte chinoise pour refermer la civilisation chinoise sur elle-même. Et ce faisant, il fait basculer la Chine vers une forme d'immobilisme, de conservatisme intellectuel et culturel qui fait que le dynamisme chinois est brûlé. Eh bien, je dis, en Europe, cette solution-là n'aurait pas été possible. À supposer que collectivement les Européens, en effet, comprennent que l'expansion outre-mer était un facteur de division, etc., et de dissension, il n'aurait pas eu cette solution. Car les Européens sont mus par une rivalité d'un genre nouveau, totalement inédite dans l'histoire, on va dire, humaine, une forme d'ordre politique qui s'appelle l'État-nation, dans lequel des États, dans un espace géographique très compact, sont en concurrence entre eux. Cette rivalité entre les nations, elle est un des éléments qu'on ne trouve pas en Chine et qui fait qu'on ne peut pas, à un moment donné, appuyer sur un bouton et fermer la dynamique de croissance. Ce que je trouve tout à fait extraordinaire quand on compare la Chine et l'Europe, disons, au XVIIIe siècle, c'est que, en fait, par rapport à tous les critères que les économistes retiennent habituellement pour dire que la croissance économique sera favorisée, qu'on appelle les institutions, qui sont très à la mode dans la théorie économique contemporaine, c'est-à-dire, pour aller très vite, le respect de la propriété privée, l'organisation d'un marché du travail efficace, un État solvable qui n'est pas expropriateur. Mais quand on regarde tous ces critères, ils sont bien davantage satisfaits dans la Chine du XVIIIe siècle qu'en Europe au XVIIIe siècle. La Chine a un État solvable, il dépense beaucoup moins, le taux de fiscalité est du tiers de celui qu'on observe en Angleterre. La propriété privée, pour aller vite, et d'après ce qu'on dit, Kenneth Pomerance, qui est l'historien économie que je cite et sur lequel je m'appuie pour faire cette démonstration, eh bien, la propriété privée, le marché du travail fonctionnait certainement aussi bien, sinon mieux, en Chine du XVIIIe siècle qu'en Europe du XVIIIe siècle. Et donc, en fait, pour aller vite, ça n'est pas de là qu'est née la croissance économique moderne. Elle est née d'autre chose, la révolution scientifique, une nouvelle appétence pour le savoir, et je pense aussi en partie de cette rivalité entre les nations qui font qu'on a une course à l'innovation, chacune cherchant à déborder l'autre.
Mais alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une version aussi pathologique de cette concurrence ici des États-nations, hein, je pense. Il y a l'exemple évidemment de l'Allemagne qui est pris, mais on peut dire que de manière récurrente sur le 19e, 20e siècle, c'est à la fois la source de croissance et la source des pires tensions.
Voilà, si je dis ça, c'est parce que le point de départ, le point inaugural du livre, c'est tout simplement de dire qu'aujourd'hui, on contemple la mondialisation en se disant au fond, en tenant en réalité un peu le même raisonnement que nos philosophes du 18e siècle. C'est-à-dire, on se dit, voilà, un monde où tout le monde va s'enrichir, va s'éduquer, va s'urbaniser, au fond, fondamentalement, ne peut pas être un monde mauvais. On pense comme Condorcet que l'éducation sera un facteur de raison. On pense comme Montesquieu que le commerce sera un facteur d'apaisement des relations internationales. Et ce que je rappelle tout simplement, c'est que ces belles idées du XVIIIe siècle ne se sont pas produites. Que la prospérité qui indéniablement vient traverser l'Europe du XIXe siècle n'a absolument pas produit la paix, mais elle a produit en réalité, au bout du compte, l'apocalypse des deux guerres mondiales. Alors, elle a produit, c'est un peu fort, je ne dis pas que l'enrichissement est cause de cette guerre, mais ce qui est certain, c'est qu'elle ne l'a pas empêchée. Elle n'a pas, peut-être certains diront, suffisamment pacifié les sociétés européennes pour empêcher que ça se produise. Et c'est clair que quand on regarde ce qui s'est passé en Europe, l'émergence de l'Allemagne, une nation à l'origine périphérique de l'Europe, qui est balayée par les armées de Napoléon et qui va progressivement devenir la grande puissance industrielle d'Europe, la plus grande puissance industrielle d'Europe au début du XXe siècle, bah elle a déclenché un jeu de dominos qui allait produire la guerre. Et si je dis ça, c'est parce que cette rivalité entre les États-nations européens, je crois, joue son rôle dans la croissance économique, mais joue aussi évidemment son rôle et même la cause directe de l'explosion, en quelque sorte, de la première moitié du XXe siècle. Je ne crois pas que la première et la deuxième guerre mondiale soient un accident de parcours de l'histoire européenne, qu'on aurait pu imaginer que ça se passe autrement. On aurait pu imaginer évidemment d'autres scénarios, mais je crois que c'est bien inscrit dans les gènes européens. On le trouve dans l'aspect positif, on le trouve dans l'aspect évidemment tragique de la première moitié du XXe siècle.
Et avec ces nouvelles sociétés industrielles, on a l'impression aussi qu'il y a une grande difficulté, qu'il arrive à construire des nouvelles solidarités pour remplacer les solidarités traditionnelles, et qu'en tout cas, encore là, pour construire ces solidarités, on a absolument besoin de la croissance. Dès qu'elle se ralentit, on fragilise cette solidarité.
Voilà, alors c'est pour moi, c'est le centre de gravité de la démonstration que j'essaye de faire dans ce livre, c'est de montrer l'immense fragilité des sociétés industrielles au regard de ce critère de cohésion sociale. Alors pour le dire très vite, je crois qu'on peut, en allant vite peut-être, mais en réalité en étant fidèle aux détails aussi, dire que à la loi de Malthus qui prévalait auparavant et qui tenait que la démographie rendait impossible l'enrichissement des habitants, des grandes masses des habitants d'une civilisation donnée, s'est substituée une autre loi que j'associe à Richard Easterlin. C'est une loi qui, je crois, aujourd'hui est en passe, sinon de faire consensus, mais d'être considérée avec beaucoup d'attention par la plus grande partie des économistes comme quelque chose qui est un bon point de départ pour la réflexion, et qui tient que tout simplement, quel que soit le niveau d'enrichissement d'une société, eh bien, d'une certaine façon, le bonheur reste à reconquérir. Si je prends l'exemple d'une société comme la France aujourd'hui, elle est deux fois plus riche qu'elle n'était en 1970, elle est trois fois plus riche qu'elle n'était par rapport aux années 60. Je ne crois pas qu'on puisse dire que la société française aujourd'hui soit plus heureuse qu'elle n'était dans les années 60. Et même, je crois qu'on peut tenir le raisonnement inverse. La France était sans doute plus heureuse dans les années 60 qu'elle n'est aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que dans les années 60, même si le point de départ était beaucoup plus bas qu'il n'est aujourd'hui, la croissance économique était un facteur de bonheur. Nos sociétés industrielles sont heureuses à proportion du taux de croissance, bien davantage qu'à proportion du niveau de richesse qui a été atteint. Prenons ça comme hypothèse. À ce moment-là, on peut en décliner un certain nombre de conséquences, et c'est ce que je fais dans le livre en suivant le raisonnement qui est proposé par Albert Hirschman. Quand une société croît vite, plus vite que prévu, alors de fait, provisoirement, elle sature les aspirations des gens, puisqu'il y a plus de richesses que ceux qu'on se préparait à recevoir, et il y a à ce moment-là une espèce de surplus social qui devient disponible pour des actions collectives, c'est ce que dit Hirschman. Alors, ces actions collectives, elles sont elles-mêmes non déterminées par la croissance économique elle-même. Au cours du 19e siècle, au début du 20e siècle, l'enrichissement de l'Allemagne a dégagé un surplus que, pour aller vite, les aristocraties prussiennes ont utilisé à des fins de puissance. Dans les années 50 et 60, mais après la guerre, et bien sûr nourri du souvenir tragique de la guerre, on a construit avec la croissance rapide des Trente Glorieuses l'État-providence, la solidarité, la protection sociale. Donc quand la croissance est rapide, on va dire les gens sont heureux, se sentent riches, il y a un surplus social qu'on peut partager. Et là où le raisonnement d'Hirschman, je crois, est passionnant, c'est quand il examine non pas seulement les phases hautes, mais les phases basses. Parce que dans les phases basses, c'est exactement le contraire qui se passe. Quel que soit le point de départ, aussi riche soit-on, une croissance faible, plus faible que prévu, et a fortiori une croissance négative quand on est en période de récession, vient saisir les populations comme si elles étaient pauvres. C'est-à-dire qu'une croissance plus faible que prévu rend les gens malheureux, quel que soit le point de départ. Et là, le surplus social qui pouvait exister pour le meilleur ou pour le pire dans les années de croissance forte disparaît. Ernest Geltner, un sociologue que je cite dans le livre, dit: la croissance apaise les tensions sociales, mais la grande faiblesse de cet idéal, c'est que le fond de corruption sociale, comme il dit, qu'est la croissance économique, peut venir à se tarir, et à ce moment-là, la société est à nu. Et pour le résumer d'une phrase, je dirais que les sociétés industrielles peuvent produire de la solidarité sociale, mais en gros, quand on n'en a pas besoin, c'est-à-dire quand tout va bien. Quand tout va mal, quand la croissance est faible, quand les liens sociaux se déchirent parce que l'emploi devient fragile et éphémère, à ce moment-là, la société industrielle a beaucoup de mal à produire à ce moment-là le niveau requis de solidarité sociale. Et je crois que voilà, la fragilité de nos sociétés industrielles, elle est là. Elle est capable du meilleur ou du pire, mais du pire aussi quand tout va bien. Et croire que la croissance va par elle-même pacifier les sociétés parce que la croissance est rapide, c'est une erreur. Ça ne s'est pas produit comme ça au 19e siècle. Qui peut dire qu'au 21e siècle, la Chine, lorsqu'elle deviendra, ce qu'elle n'est pas pour l'instant, et loin s'en faut, la plus grande puissance industrielle du monde, qui pourra dire qu'elle se comportera autrement que comme l'Allemagne prussienne du début du 20e siècle? Et en cas de ralentissement, bon, qui peut prendre des formes extrêmes de dislocation de la société, comme c'était le cas dans les années 30, qui peut dire ce que sera la réponse de nos sociétés. Donc, je crois, voilà le cœur de ce qui est pour moi la fragilité de la société industrielle actuelle.
Oui, et en plus, vous ajoutez que non seulement la croissance ne réussit pas à pacifier les sociétés, mais qu'elle n'arrive pas non plus à canaliser la violence. Elle transforme les formes de violence plutôt, et on peut se demander pourquoi le développement ne permet pas d'éradiquer progressivement la violence dans la société.
Ça fait partie des mystères anthropologiques. La violence dans notre Europe vieillissante, elle n'a pas été éradiquée par la richesse, encore une fois, elle a été éradiquée par la violence elle-même, la violence de la Seconde Guerre mondiale. Et ce qu'on peut espérer faire, c'est davantage que de museler la violence, espérer qu'on arrive à l'euphémiser. Voilà, c'est ça qu'on peut espérer. Alors, ça s'est passé au 19e siècle, cette espérance. C'est-à-dire qu'on a vu que la violence, elle s'est un peu réfugiée. Alors, je cite les travaux de Robert Muchamblé, que je trouve tout à fait extraordinaire, dans lesquels il explique comment la violence au 19e siècle, elle a un peu migré vers l'imaginaire des populations. C'est-à-dire, les gens commençaient à lire des romans noirs qui leur faisaient peur. C'était une façon pour eux de mettre à distance la peur qu'ils avaient d'une société qu'ils ne comprenaient pas et qui était à leurs yeux violente. Mais comme il le rappelle aussi, il y a eu un formidable retour de refoulé au moment même où on croyait, au début du XXe siècle, qu'on avait réglé ce problème de la violence. On pensait, au début du XXe siècle, que ça y est, on était arrivé à la paix universelle. Et puis, on était exactement quelques années avant les immenses boucheries. Donc oui, je crois que la violence, elle sera toujours là. Quand on se promène sur Internet, on ne peut pas dire que ce soit un monde pacifié. Il y a beaucoup de rivalités au sein d'Internet. Les jeunes, avec Facebook, etc., cherchent à construire des réseaux sociaux qui ne sont pas pacifiés. C'est à celui qui aura le plus grand nombre d'inscriptions. Enfin, on y trouve, au fond, un peu toute la violence de nos sociétés. Mais c'est euphémisé. Ça prend des formes, voilà, qui sont moins violentes. En tout cas, on peut l'espérer. Donc voilà, je pense que la violence, il faut plutôt la canaliser que de penser qu'on va l'éradiquer. Et ça, évidemment, ça expose toujours au risque d'un retour de refoulé.
Alors toujours sur ce monde occidental, on peut s'interroger sur la compréhension qu'on a de la rupture de la croissance. Vous dites à un moment donné, parlant de l'Occident, il ne saisit les lois qui le guident que lorsqu'elles deviennent mortes. Est-ce qu'on voit se dessiner aujourd'hui des nouvelles lois de la croissance qui se profilent?
Alors, bon, je dis ça parce que on énonce la loi de Malthus à peu près au moment où elle devient fausse. On comprend la crise de 29, mais quand elle est terminée, on a beaucoup de la stagflation, autre exemple, on n'a pas compris immédiatement et en temps réel. On est toujours en décalage. On croit comprendre grâce à Keynes le fonctionnement des sociétés. Et puis voilà, la crise des années 70, elle prend le keynésianisme à contrepoint. On devient monétariste et puis là, on a une crise qui n'y ressemble pas. Bon, donc on est évidemment toujours obligé de refaire le raisonnement. Mais au fond, si on devait s'interroger simplement sur la grande question du 21e siècle, je crois qu'elle serait relativement simple à énoncer, non pas à trouver la solution, mais à énoncer. C'est que, au fond, au moment où aujourd'hui la mondialisation fait espérer la plus grande masse des populations mondiales qu'ils vont à leur tour rejoindre le mécanisme de croissance perpétuelle que nous avons connu, c'est-à-dire s'arracher enfin eux aussi à cette loi d'une pauvreté, on va dire, endémique, celle de la loi de Malthus, au moment où, au fond, toutes les civilisations du monde sont en train de rejoindre le credo occidental qu'une croissance perpétuelle est possible. Eh bien, on redécouvre brutalement la finitude du monde qui était à l'origine de la loi de Malthus, c'est-à-dire l'insuffisance des terres disponibles. Il y a une espèce de retour intellectuel qui est tout à fait extraordinaire. Je cite dans le livre le philosophe Alexandre Coiré qui disait: la révolution scientifique du XVIIe siècle, elle a fait passer l'Europe de l'idée d'un monde clos à celle d'un univers infini. Et curieusement, au moment où cette idée est en train de se propager à la planète, eh bien, il faut, en un certain sens seulement, bien sûr, seulement, mais faire un chemin inverse et comprendre que cette idée d'un univers infini vient se heurter à l'idée d'une clôture du monde, celle que la contrainte écologique est en train de nous imposer. Alors si on accepte que le moteur du bonheur, c'est la croissance, c'est l'enrichissement, et que si cette idée se propage à trop de pays à la fois, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, comment on va gérer cette contradiction? Ça, c'est la grande incertitude du XXIe siècle. D'aucuns disent qu'il faut se préparer à la décroissance, mais compte tenu des ressorts des sociétés industrielles, ça me paraît très difficile comme programme politique, sinon totalement impossible. Donc c'est évidemment d'autres voies de la croissance qu'il faudra inventer, des voies de la croissance qui peut-être seront elles aussi euphémisées, c'est-à-dire sur le cybermonde, dans cette mondialisation immatérielle. Il y a peut-être d'autres formes de croissance que la croissance matérielle. En tout cas, voilà, tout le monde le sait en réalité. On est aujourd'hui face à une contradiction majeure entre cette aspiration à la croissance et la finitude du monde. Comment on va le résoudre? Voilà, c'est la grande incertitude qui plane aujourd'hui sur le monde. J'ajoute que cette incertitude, elle prend une signification nouvelle, je pense totalement inédite, qui vient au fait qu'avant, Jared Diamond a très bien montré dans son livre Effondrement, avant les civilisations venaient trouver leur apogée et parfois s'effondraient parce qu'elles ne savaient pas régler bien souvent les problèmes écologiques auxquels elles étaient confrontées, problèmes de disponibilité de ressources, mais d'une certaine manière, ce n'était pas très grave. L'histoire humaine, elle continuait ailleurs. Aujourd'hui, on est dans une occidentalisation du monde qui fait qu'on a une civilisation planétaire qui est en train de s'imposer partout. Je pense que c'est exactement le contraire de ce que dit Huntington. On converge tous vers la même façon d'être en société, d'exister par les biens de consommation, la société de communication, etc. Et si cette civilisation échoue, il n'y en aura pas une autre de rechange ailleurs. Donc là, on est dans un moment d'étranglement de l'histoire humaine, et qui évidemment est un souci pour ceux qui regardent ça avec attention.
Est-ce qu'on peut préciser à ce moment-là les conditions de ce que serait une nouvelle croissance équilibrée? Il me semble que vers l'émergence des nouveaux modèles de croissance, le rapport qui vient d'être publié nous donne des pistes.
Écoutez, moi personnellement, j'ai beaucoup de réticence à dire ce que ça doit être, ce modèle de croissance équilibré. Je pense que, pour le dire encore une fois très simplement, il est clair qu'il faudra verdir toutes sortes de choses. Il faudra verdir La mobilité, est-ce qu'on a besoin d'une voiture par personne, etc. Est-ce que la civilisation urbaine dans laquelle on est aujourd'hui, elle est adaptée à un monde dans lequel il faudra essayer d'économiser sur les ressources énergétiques? Bon, donc bon, là, j'ai rien d'extraordinaire à dire, si ce n'est que bon, il faut vraiment réfléchir au mélange efficace de taxes, de subventions, d'innovations qui vont permettre, voilà, de régler ce problème d'encombrement de la planète. Maintenant, je pense qu'une des particularités du monde actuel, j'y faisais allusion tout à l'heure avec cette histoire de la civilisation cybernétique, c'est qu'il me semble qu'en réalité, l'humanité est en train de vivre plus silencieusement et de manière un petit peu moins intelligible peut-être que les autres, une nouvelle migration. Hein, on a eu une première migration, on va dire, des sociétés de chasseurs-cueilleurs vers les sociétés rurales qui vont accompagner la naissance de l'agriculture. On va avoir une deuxième migration de ces sociétés rurales vers des sociétés industrielles, urbanisées. Bon, c'est encore le monde, évidemment, dans lequel on est, nous, pays occidentaux, et dans lequel tout juste la population mondiale est en train de basculer, puisque c'est seulement l'année dernière qu'on a atteint le point où 50% seulement de la population était urbanisée, de la population mondiale. Donc voilà, marche vers l'urbanisation. Mais pendant que le reste du monde, les pays émergents, sont en train de s'urbaniser à leur tour et d'entrer à plein dans les sociétés industrielles dont je parlais à l'instant, nous continuons notre migration. Nous continuons notre migration vers un monde cybernétique, un cybermonde, le monde des technologies de l'information et de la communication, qui devient un deuxième monde de vie à côté de celui qu'on fréquente, c'est-à-dire un monde du virtuel, un monde, voilà, dans l'espace, quelque chose d'autre. Par rapport à la formule d'Alexandre Poiré, la recherche d'un monde infini, d'un univers infini, cette recherche de l'univers infini, elle continue dans ce cybermonde. Et ce cybermonde, voilà, il porte peut-être la promesse, encore une fois, d'une croissance qui va se prolonger, mais dans des termes qui pourront peut-être plus simplement contourner les obstacles de l'engorgement écologique. Et c'est ce cybermonde qu'on ne comprend pas bien. On ne comprend pas bien ses codes moraux, pas sûr du tout qu'encore une fois soit un monde plus vertueux que le nôtre. On y trouve beaucoup de cybercriminalité. En fait, c'est un monde exactement torturé. Il y a de la cybersexualité. Enfin, je lisais le récit de quelqu'un dont la femme a découvert quand il est mort, alors même qu'il n'avait pratiquement plus de relations sexuelles, qu'il avait une cybersexualité complètement débordante, inoffensive de cette manière, mais bon, exactement, qui avait happé en réalité son appétit sexuel. Donc c'est un monde dont on ne comprend pas très bien encore les codes moraux. Sinon que sans doute il répète l'histoire humaine un peu classique. Et deuxièmement, et peut-être pour les économistes que nous sommes, il n'a pas encore compris exactement ce que serait son business model. C'est un monde qui vient en quelque sorte ici proposer un idéal de gratuité. Tout a priori a vocation à être gratuit sur le net, puisqu'on est dans un monde d'immatériel dans lequel le coût de réplication est nul. C'est vraiment exactement le cas classique de rendement d'échelle croissant que connaissent bien les économistes. Bon, il faut quand même aussi un business model. C'est-à-dire, si on veut qu'on puisse en vivre, il faut trouver des règles. Ça ne sera certainement pas les règles classiques du paiement à l'acte d'une marchandise vendue et tarifée au poids comme on l'a connu avant. Voilà, on est dans une véritable incertitude par rapport aux lois qu'on veut comprendre. Qui peut me dire aujourd'hui avec certitude ce que seront les lois qui vont permettre dans 30 ou 40 ans de faire que ce cybermonde devienne un marketplace un peu comme les autres? Franchement, je n'en sais rien. Je vois beaucoup de scénarios, on ne va pas avoir le temps de les décliner. Mais je ne peux pas dire qu'on puisse parier sur un plutôt que sur un autre. Donc voilà un peu ce que je vois comme marche du 21e siècle, à la fois être rattrapé par la contrainte écologique qu'il va falloir gérer à coup d'innovation, à coup de rationnement parfois, de quotas, tout ce qu'il faudra, et puis une continuation de l'histoire occidentale dans un nouveau monde qu'en réalité on comprend très mal.
Et la crise économique actuelle, potentiellement, est-ce qu'elle va être un accélérateur de changement?
Non, personnellement, je ne pense pas. Je pense que cette crise, en réalité, elle est tout simplement le résultat du fait que dans les années 80, on a pensé qu'on pouvait tourner la page du XXe siècle. Et on a pensé que, on va dire, toute cette solidarité sociale dont je parlais tout à l'heure, qu'on a construite à l'ombre de la guerre dans les années 50 et 60, devenait un fardeau inutile. Et en réalité, on a pensé que la crise de 29, la guerre elle-même, c'était un accident de parcours, au fond inédit, exceptionnel, et qu'on pouvait passer à autre chose. C'est vraiment à partir des années 80 que le capitalisme a pensé qu'il pouvait produire sa propre morale, pour organiser les relations sociales. Alors, ce n'est pas simplement le rapport entre l'État et l'économie qui a été changé, moins d'État et plus de libre jeu des marchés, c'est au sein même de l'économie que ce rapport a été modifié. Bon, Oliver Williamson vient d'avoir le prix Nobel, donc c'est l'occasion d'en parler. Je crois qu'il a aidé finement à penser l'opposition qui existe au sein même du capitalisme entre l'économie de marché, c'est-à-dire je vends, j'achète au meilleur rapport qualité-prix, c'est un peu l'attitude qu'on a quand on ouvre un distributeur de sucreries et qu'on cherche le meilleur rapport qualité-prix qui correspond à votre attente. Et puis il y a le monde des organisations, à l'intérieur duquel il y a des rapports hiérarchiques de confiance tout à fait autre chose que celui qu'on trouve dans un marché qui a plutôt vocation à faire prévaloir l'anonymat. Eh bien, cet équilibre entre marché et organisation, il a été rompu dans les années 80 au profit des marchés. On a pensé que les organisations étaient devenues d'une certaine façon quelque chose d'inutile, quelque chose de pesant, alourdi par les relations humaines. Et je cite dans le livre le philosophe allemand Peter Sloterdijk qui disait « Dans les années 60, les ouvriers qui voulaient obtenir satisfaction de leurs revendications savaient qu'il leur suffisait de tourner un peu leur regard vers l'Est pour rappeler à leur propre patron que la paix sociale, ici aussi, avait un prix. » C'est cette idée que la paix sociale, c'est-à-dire l'idée d'organiser des relations sociales dans la durée, bon, ménager ses employés, essayer de voir s'il y a des carrières qui sont possibles, c'est cette idée qui a été brisée dans les années 50, dans les années 80, et on y a substitué, plutôt que des rapports hiérarchiques, des rapports de sous-traitance, plutôt qu'un salariat qui se construit dans la durée avec des incitations à progresser dans le long terme, des bonus payés en fin d'année qui ont fini par cannibaliser, au fond, les relations sociales. Et la crise, bon, n'est rien d'autre qu'une des manifestations des pathologies de ce monde, là où il est le plus vulnérable, à savoir le monde des établissements financiers.
Dans ce monde qui change, je crois que la mondialisation depuis une vingtaine d'années est un des thèmes majeurs. Et dans le rapport qu'on citait, vous évoquez la possibilité que l'économie des territoires soit une réponse adaptée à la mondialisation aujourd'hui.
Ben, ce qu'on sait, je crois, pour le dire très simplement, c'est que la mondialisation qu'on interprète parfois comme l'effet, ce qu'elle est en partie d'ailleurs, d'une révolution dans les technologies de la communication. Voilà, Internet est aujourd'hui au monde du XXIe siècle, ce qu'a été le télégraphe, le bateau à vapeur et la machine, et le téléphone au XIXe siècle. Donc c'est sûr qu'on est porté par une révolution de la technologie, de la communication. Mais ce que pour le coup, les économistes qui étudient la géographie économique savent bien, c'est que ça ne détruit absolument pas l'importance de la géographie. D'une certaine façon, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire à partir du moment où toutes sortes de choses inessentielles peuvent être téléchargées à distance, etc., la valeur, elle est dans ce qui, justement, ne peut pas se télécharger, c'est-à-dire dans les relations de face à face. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, la géographie prend plus d'importance aujourd'hui dans les relations, on va dire, qui tiennent à la production de capital cognitif qu'elles n'en tiennent à la production de biens industriels. Un rapport qui a été publié par le CEPREMAP il y a quelque temps montrait qu'en fait, les industriels sont aujourd'hui ceux qui cassent la géographie, parce qu'ils sont sans cesse en migration à la recherche du meilleur rapport qualité-prix, avec les délocalisations d'une part, mais au sein même du territoire. Ils cherchent à s'implanter dans les territoires les plus pauvres où le coût est le plus faible. Et ce qui fixe un territoire, ce sont les activités à fort capital cognitif, c'est-à-dire celles où justement on veut être ensemble, il ne s'agit pas de migrer, il s'agit au contraire de bénéficier à plein des effets d'agglomération. Donc le rapport à la géographie garde toute son importance, mais les acteurs d'une géographie stable ne sont plus du tout les mêmes. Ils sont à l'image du monde post-industriel dans lequel la production de connaissances est en train, en gros, de prendre la place, la production de biens matériels comme point de fixation du territoire.
Alors peut-être une lecture maintenant subjective que j'ai pu avoir moi du livre, mais qui rejoint le thème de la conférence, puisqu'on l'appelait les démons de la crise. À plusieurs moments, vous nous parlez du rôle de la religion, dès le début de l'ouvrage, des forces démoniaques, d'un monde aussi désenchanté par la disparition de la religion. Est-ce que c'est des choses qui sont en concordance avec le regard que les économistes portent sur des questions comme le bonheur, la confiance, l'éthique? J'ai l'impression que sur les motivations intrinsèques qui ne seraient pas monétaires chez les agents économiques, est-ce qu'il y a un déplacement là du regard qu'auraient les économistes aujourd'hui justement sur cet environnement?
Ben, il me semble que les économistes qui, tout simplement, ont longtemps essayé de comprendre les causes de la croissance économique ont progressivement traversé beaucoup d'échelles dans le raisonnement. On a d'abord pensé que la croissance, enfin, je reprends le raisonnement, disons, qui commence dans les années 80 avec les théories de la croissance endogène. On a pensé que c'était un phénomène qui tenait à des rendements d'échelle croissants dans l'accumulation du capital. C'est un peu les premières thèses de Romer. Bon, ça retrouve un peu les idées de Marx, que c'est l'accumulation du capital qui est le moteur de la croissance économique. C'est des idées très, on va dire, matérialistes en réalité. Bon, accumulé, il en restera toujours un peu quelque chose. Mais on est passé à ça, à des théories qui disent non, c'est en fait le capital humain, c'est le passage de Romer à Lucas. Et puis progressivement, on s'est rendu compte que ce n'était pas ça non plus. On est passé à la théorie des institutions. Et il faut un cadre qui soit propice à la croissance économique, le respect de la propriété, bon, pour que ça marche. Bon, l'exemple d'ailleurs que je donnais entre la Chine et l'Europe au XVIIIe siècle montre que ça ne peut pas être exactement ça, parce que les institutions n'étaient pas plus défaillantes en Chine au XVIIIe siècle qu'en Europe au XVIIIe siècle. De même, la Chine aujourd'hui connaît une croissance tout à fait extraordinaire, alors que ses institutions ne se sont pas beaucoup modifiées par rapport à ce qu'elles étaient dans les années 70. Ce sont les politiques qui ont changé, mais pas tellement les institutions. On reste toujours dans le cadre, en gros, d'une dictature. Donc ce n'est pas non plus les institutions. On a un peu migré vers les mentalités. Bon, et donc on voit que les économistes ont été obligés, et bien entendu, il ne s'agit pas de choisir une théorie contre l'autre. Je crois qu'il faut plutôt trouver la cohérence de toutes ces explications. L'erreur que je vois dans la recherche économique, que je connais le mieux sur la croissance économique, c'est justement de chercher à chaque fois une explication. C'est soit les externalités, soit le capital humain, soit les institutions, soit maintenant peut-être aujourd'hui la confiance dans toutes ces choses-là. Je pense qu'il faut être très modeste, voir que tout ça joue en même temps. Et ce qui fait qu'on est dans une époque, c'est quand tout ça entre en résonance. Pour la mondialisation aujourd'hui, il y a beaucoup de transformations qui sont entrées en résonance et dans lesquelles il faut remettre bout à bout tout ce dont on vient de parler. Mais c'est vrai que, je reprends ce que je disais tout au départ, aussi bien la révolution industrielle que la révolution néolithique, on peut dire qu'elles ont été précédées par une réflexion d'ordre moral. On peut sans doute dire que c'est l'invention des divinités qui a rendu possible l'agriculture, et c'est au fond la sortie du monde des divinités, la révolution scientifique du XVIIe siècle, qui a rendu possible la croissance économique moderne. On voit que dans le XXIe siècle qui s'écrit, si on veut maîtriser les passions qui sont produites par la société industrielle, cette aspiration à toujours plus, etc., alors même que le cadre global est sans doute contradictoire avec ces passions, il faudra sans doute une révolution d'ordre moral. Je pense qu'il y aurait beaucoup de naïveté pour les économistes à croire que le seul jeu auquel je faisais allusion tout à l'heure, de taxation, de quotas, etc., va suffire à régler la question écologique. Il faut une aspiration nouvelle, il faut que les gens soient vigilants, y compris dans la façon dont ils se comprennent eux-mêmes, pour que, voilà, on arrive à régler pacifiquement ces différentes contradictions qui vont émerger. Donc oui, c'est vrai que le fil conducteur, vous parliez aussi de la violence, fait qu'on ne peut pas se projeter dans le XXIe siècle si on ignore toutes ces dimensions-là.
Merci Daniel Cohen. Je crois que ces réflexions vont nourrir aussi les débats maintenant pour les journées de l'économie. Merci.